Bruno Dubois, c'est à vous de venir désormais. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et responsable scientifique de cette fondation Alzheimer. Vous allez nous parler aujourd'hui des médicaments, parce que c'est quand même de ça qu'on rêve. Comment est-ce qu'on arrive à mettre au point ces médicaments? Et puis, tout récemment, un nouveau médicament fait beaucoup couler d'encre et je suis curieuse de vous écouter sur le sujet.
On va en parler, mais juste avant, je voudrais remercier ma chère consoeur d'avoir fait le grand plaisir et l'honneur d'être là, et bien sûr mon ami et mes amis avec Mira et bien sûr Michel. Et permettez-moi en un mot quand même d'évoquer quelques très bons souvenirs, mon cher Michel, parce que je peux dire que c'est une vieille association, une vieille collaboration. Ça fait de très nombreuses années que nous travaillons ensemble, et en même temps que tu parlais tout à l'heure, j'évoquais quelques souvenirs. Tu te rappelles le CNC, le club de neurologie comportementale que tu avais monté? On se retrouvait sur une base mensuelle à Fontainebleau. Les vendanges, tu te rappelles les vendanges? Voilà, enfin, on a plein de très bons souvenirs. Et je voudrais dire aussi que Michel a contribué avec moi. Vous évoquiez, madame, les plans Alzheimer et le premier plan Alzheimer, le plan Kouchner. Tu sais qu'ensemble, nous avons créé le concept des CMRR, le Centre de mémoire de ressources et de recherche. C'est un dossier que nous avons monté ensemble, tu te rappelles, tous les deux. Et puis, le dernier souvenir que je voudrais dire, c'est même par rapport à la Fondation pour recherche sur Alzheimer, la FRA, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais tu as été associé au début de cette fondation, lorsque nous avons monté avec Olivier Ledoucette cette fondation. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu es venu chez moi, et nous avons eu un dîner à la maison, où j'ai réuni l'ensemble des centres qui ont fait partie de ce réseau de la Fondation pour recherche sur Alzheimer. Et je me rappelle, tu avais apporté un soutien très important au concept de réseau. Tu te rappelles peut-être de ce dîner à la maison qui était un dîner fondateur. Voilà. Après ces évocations que je ne pouvais pas ne pas faire en souvenir de ces bons moments passés ensemble, je vais parler des actualités thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer, et je vais moi-même passer les slides et vous expliquer pourquoi justement. Michel, tu as parlé de l'importance de la recherche, et c'est une fondation qui soutient la recherche, et c'est une fondation, comme tu l'as rappelé, qui soutient particulièrement la recherche clinique. Et c'est l'occasion quand même pour moi de vous expliquer à tous ce qu'est la recherche en médecine et en sciences. Eh bien, la recherche, oui, c'est ce que j'appelle le triangle magique de la recherche. Finalement, je pense qu'il faut qu'elle parte du patient. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Vous allez voir, on part du patient, on va revenir au patient. On part du patient parce que c'est le patient qui détient les pistes qui tiennent ce qu'on appelle les empreintes en anglais, qui détient, si vous voulez, les données à partir desquelles on va pouvoir identifier les protéines anormales ou les pathologies sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc il va falloir, grâce à des investigations de tous ordres, c'est-à-dire investigations biologiques, cliniques, génétiques et d'imagerie, on va essayer de repérer le secret de la maladie du patient. C'est chez le patient qu'il faut chercher la maladie. Ce n'est pas dans le ver élégance, ce n'est pas dans la drosophile. C'est chez le patient. Le patient détient un secret qu'il nous faut découvrir en faisant des prélèvements, des enquêtes, etc. Et c'est ça la recherche clinique. Ce n'est pas uniquement les essais thérapeutiques. C'est essayer par de multiples prélèvements d'identifier ces anomalies qui vont nous permettre après, grâce à ces cohortes que nous souhaitons mettre en place et les découvertes de biomarqueurs, qui vont nous permettre après de donner de l'information aux laboratoires de recherche fondamentale et qui, eux, vont créer des modèles à partir des informations qu'on leur fournit. Modèles, par exemple, moléculaires, modèles cellulaires, modèles génétiques, modèles animaux. Et on fait aujourd'hui des modèles de maladie d'Alzheimer chez la souris ou chez le rat. Et à partir de là, on va pouvoir tester sur ces modèles expérimentaux des médicaments qui vont, et voilà, et la boucle est bouclée, et qui vont finalement, après, par les essais thérapeutiques, revenir au patient. Et c'est cette boucle magique, c'est ce triangle magique de la recherche que je voulais vous présenter. Et une fois qu'on a mis ça en place, c'est ce que nous faisons, nous, dans cette Fondation pour recherche sur Alzheimer, c'est d'essayer de soutenir les cohortes, c'est-à-dire essayer d'extraire du patient des informations et revenir au patient par les essais thérapeutiques. Alors, les essais thérapeutiques, je voudrais juste quand même vous expliquer ce qui se passe, parce que Il y a beaucoup, beaucoup, à mon avis, de fake news ou d'informations erronées sur la façon dont se passe la recherche médicamenteuse. La recherche médicamenteuse est extrêmement contrôlée. Si on vous propose de participer un jour à une recherche thérapeutique, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je vais vous montrer les démarches réglementaires qui sont, par exemple, imposées à ces structures qui se lancent là-dedans. On va regarder, vous voyez, la partie gauche pour vous, c'est-à-dire la catégorie 1. C'est la catégorie où on développe des médicaments. Eh bien, pour obtenir l'autorisation de développer des médicaments, il faut déposer des dossiers, vous voyez, à l'Europe. Il faut l'enregistrement européen. Après, il faut une autorisation de la NSM. Après, il faut un avis du CPP, du Comité de protection des personnes. Et enfin, si vous voulez, après, on va pouvoir avoir l'autorisation de mise sur le marché. Pour qu'un médicament arrive à son terme, il faut qu'il ait passé par différentes étapes. Je vous les rappelle, il faut qu'il ait démontré déjà ses propriétés précliniques sur les modèles animaux dont je vous ai parlé. Puis après, on va faire une étude de phase 1 chez des sujets normaux, comme vous et moi, pour étudier la tolérance. Est-ce que ce médicament qu'on cherche à développer n'est pas toxique, n'est pas éventuellement agressif. Donc on va faire une étude de tolérance et en même temps, on va faire une étude de recherche de dose. C'est l'étude de phase 1, c'est-à-dire qu'on va monter la dose pour voir finalement si à la dose que l'on envisage, à laquelle on envisage de l'utiliser, est une dose qui n'entraîne pas d'effets secondaires, ou tout au moins des effets secondaires dont on considère qu'ils sont finalement tolérables. Puis après, on va passer à l'étude de phase 2. Je vous dis ça parce que vous voyez ça maintenant un peu dans la littérature, ça, médicament de phase 2, médicament de phase 3. Le médicament de phase 2, c'est un médicament qui a montré qu'il était bien toléré chez le sujet sain, et on commence à l'étudier chez le sujet malade, mais on l'étudie dans des conditions extrêmement choisies en termes de qualité de personnes qu'on va recruter, de patients. On va faire, si vous voulez, une sorte d'analyse très, très propre sur des patients, entre guillemets, parfaits. Et on va voir si ce médicament donne un signal. Il est bien toléré, on a vu, et est-ce qu'il donne un signal? Alors on va choisir un critère, on va voir s'il y a une tendance sur un petit échantillon à un changement. L'idée est simple, hein, on prend deux groupes, on prend un groupe qu'on va traiter avec le médicament et un groupe placebo. Et on va voir sur un signal, par exemple cognitif, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on va voir s'il y a une différence significative, c'est-à-dire si le bras traité performe un peu mieux que le bras contrôle. Voyez. Et une fois qu'on a le signal, à ce moment-là, on se dit c'est bon, maintenant il faut généraliser sur, alors là, la population tout venant. Et on fait ce qu'on appelle l'étude de phase 3. Ce sont de très larges études mondiales dans tous les pays du monde. Et on va donc recruter des sujets un peu tout venant qui répondent à des critères d'indication bien précis quand même. Mais on se met un peu en situation de vie courante. Et on voit si on confirme le signal qui était apparu à l'étude de phase 2 et si on le retrouve dans ces larges études de phase 3. Et c'est à partir de deux études de phase 3 positives que l'on peut aller à la FDA ou à l'IME, c'est-à-dire l'Europe ou aux États-Unis, déposer un dossier dans lequel on a deux études positives, deux études pilotes positives. Et si on a deux études pilotes positives, à ce moment-là, naturellement, ces agences réglementaires donnent leur autorisation de mise sur le marché. Et après, il restera la dernière étape qui va être la discussion avec les autorités sanitaires du prix du médicament. Et c'est en fonction du prix que, et après avoir discuté et accepté le prix, que le médicament sera mis sur le marché. Vous voyez, donc toutes ces étapes sont très importantes. Objectif de l'essai, vous l'avez compris, il va y avoir un critère primaire, c'est-à-dire un critère d'étude d'efficacité du médicament. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est généralement un critère cognitif, c'est-à-dire généralement la mémoire, ou alors ce qu'on appelle des critères composites qui rassemblent différentes données d'intelligence, de langage, de mémoire, etc. Et on regarde si on a un effet sur ce score cognitif. Mais il peut y avoir des critères secondaires qui sont étudiés et qui permettront secondairement d'ailleurs d'acutiser la connaissance qu'on aura du produit. L'évaluation du traitement, je vous l'ai expliqué, donc la pertinence doit correspondre à celle qui bénéficiera du traitement. Donc, population, toute la grande difficulté, c'est quelle population choisir, une population homogène, mais ce n'est pas forcément la population qu'on aura après dans la vie courante, donc il faut faire un peu un mix entre les deux, et surtout le plan expérimental, le plus souvent, c'est celui que vous avez à gauche, c'est-à-dire un bras traité par rapport au bras placebo, et on voit s'il y a une différence. C'est une différence. Voilà. La notice d'information est obligatoire, vous êtes obligé de la signer, un consentement obligatoire, et je vous le signale simplement pour vous dire combien c'est contrôlé. Si on fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé de l'intéressé ou du tuteur, eh bien à ce moment-là, celui qui fait pratiquer cette recherche biomédicale sans avoir un consentement écrit, eh bien il est punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. C'est vous dire combien nous sommes extrêmement, extrêmement surveillés. Et que quand on vous propose un essai thérapeutique, généralement, enfin, il n'y a pas de doute sur la qualité de la recherche et des investigateurs qui sont derrière. Donc vous pouvez être rassuré. Simplement pour vous dire qu'on conserve les données pendant jusqu'à 15 ans. Et maintenant, on va rentrer dans la problématique de la maladie d'Alzheimer, si vous voulez bien, et faire le point sur, maintenant que vous êtes très, très, très compétent et très connaisseur de toutes les étapes nécessaires et indispensables pour arriver un médicament qui va être autorisé d'être mis sur le marché, eh bien, je vais vous présenter, si vous voulez, l'alternative dans la maladie d'Alzheimer. On a deux types de traitements. On a soit le traitement symptomatique, soit le traitement physiopathologique. C'est très important de comprendre la différence. Et c'est illustré, si vous voulez, par cette image. Vous voyez une baignoire qui se vide par sa bonde qui n'est pas fermée. Et donc, vous allez avoir l'eau qui va couler, et vous avez deux façons de faire. Soit vous bouchez le trou, ça c'est le traitement physiopathologique, c'est-à-dire que vous traitez le problème, soit vous remplissez avec un brodo pour compenser les conséquences de la lésion, c'est-à-dire en l'occurrence de l'eau qu'il faut remplir en permanence. L'autre exemple, si vous voulez, c'est la rage de dents. Vous avez deux façons de traiter une rage de dents. Soit vous prenez un antalgique, traitement symptomatique, soit vous traitez la dent, vous traitez la curie, vous arrachez la dent, c'est le traitement physiopathologique, vous traitez la cause. D'accord. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est le même cas. On a eu, dans un premier temps, des traitements symptomatiques. Je ne veux pas rentrer dans un débat qui a eu lieu, et je pense que Michel a participé aussi sûrement à des discussions sur ce problème. On a eu des débats sur l'efficacité d'un traitement qui visait à remplir, si vous voulez, le système cholinergique. Il n'y avait pas assez d'acétylcholine dans le cerveau, donc on remplissait avec de l'acétylcholine, et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque, comme vous le voyez ici sur cette image, je ne sais pas si on le voit là, oui, pardon, vous voyez là, les sujets placebo, vous voyez qu'ils s'aggravent au cours du temps, vous voyez qu'ils s'aggravent au cours du temps, et vous voyez là les sujets traités qui maintiennent leur niveau cognitif jusqu'au moment où on arrête le traitement, ce qu'on fait, ce qu'on appelle un wash-out, pour voir s'il s'aggrave, ce qui est la preuve indirecte du fait que le médicament fonctionnait, puisque là, ils sont sous l'effet du médicament, vous voyez qu'ils conservent un effet positif par rapport à la ligne de base, et quand on arrête le traitement, hop, il s'aggrave, il rejoint le placebo. Donc ça, c'est une preuve, à notre avis, indiscutable de l'efficacité de ces traitements. Alors, il y a eu des discussions sur la qualité de cette amélioration, elle est effectivement modeste, modérée, discutée au point que, le ministère de la Santé avait décidé, il y a 2 ou 3 ans, de le dérembourser. Voyez. Donc, nous, neurologues, avons été surpris et malheureux de cette décision, car nous considérions et nous considérons que ce médicament a quand même un petit effet et qu'il y a une perte de chance à ne pas l'utiliser, tout au moins chez des sujets qui n'en ont pas des effets secondaires.
C'est de la qualité de vie donc qui était conservée, hein, c'est ce que vous nous montrez là.
C'est sur 6 mois. Hein, c'est sur 6 mois et sur la durée, on franchissait la ligne de base. Mais à 6 mois, on était quand même encore au-dessus de la ligne de base, en sachant qu'il y a quand même un écart standard et que certains patients pouvaient être au-dessous. Mais globalement, il y avait quand même une certaine stagnation de l'efficacité. Voilà, donc il y a eu une discussion importante à ce sujet-là. Je ne vais pas rentrer dans le débat, si vous voulez, parce que c'est des médicaments qui coûtent un peu d'argent, donc il fallait bon, évaluer le bénéfice-risque et surtout prescrit chez des gens âgés ou très âgés, il pouvait avoir des petits inconvénients. Donc le ministère a décidé de les dérembourser. Bon, je propose qu'on ne rentre pas sur un débat là-dessus, parce que le débat maintenant, vous allez voir, il est en train de se déplacer, car cette problématique-là est un peu dépassée depuis qu'on est maintenant sur des médicaments physiopathologiques. Alors, vous avez compris la différence. Là, cette fois-ci, je vais vous parler de médicaments qui ciblent les lésions de la maladie. D'accord ? Et ces lésions, elles sont connues depuis 1906, c'est Alzheimer qui les a décrites. C'est un amas de substances amyloïdes, une sorte de substance gélatineuse qui se dépose dans le cerveau, des plaques amyloïdes, ou alors des modifications du squelette des neurones, ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Donc on a soit des lésions amyloïdes, soit des lésions tôt. Voilà. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui on est en train de montrer, à partir d'une théorie qu'on appelle la cascade amyloïde, que finalement ces deux lésions finalement, sont impliquées dans la genèse de la maladie d'Alzheimer. Et à partir de là, il y a eu depuis 20 ans des médicaments qui ont été développés et qui sont dirigés contre, principalement d'ailleurs, la plaque amyloïde. Donc ce sont des médicaments anti-amyloïdes. D'accord ? Et là, vous avez les résultats d'un médicament qu'on appelle l'aducanumab. Vous en avez peut-être entendu parler. Je vais vous dire pourquoi, mais depuis une semaine, on en parle beaucoup de ce médicament. Car on savait que ce médicament était efficace sur les lésions. Regardez, vous voyez avant, après, vous voyez que, alors ce sont des cas choisis, mais vous voyez qu'entre au début et après, plus c'est rouge, plus il y a de lésions, moins c'est rouge, moins il y a de lésions. C'est très spectaculaire. Ce sont ce médicament et ceux qui vont venir, parce qu'il y en a d'autres que l'on connaît, le BAN et le DODAN des NUMAD, sont des médicaments qui sont des détergents de plaques amyloïdes. Ils nettoient le cerveau. Regardez, en bas, vous voyez, la rouge à gauche, c'est très, très, très altéré. À droite, c'est pratiquement, il n'y a plus de lésions. Et vous avez la confirmation sur ces histogrammes qui montrent que plus, vous voyez, plus c'est en bas, plus il y a de... les lésions ont régressé. Vous voyez que vous avez un effet dose. Là, je crois que c'est 1 mg, 3 mg, 6 mg et 10 mg. Et vous voyez que l'effet est très spectaculaire. Ça nettoie les lésions de la maladie d'Alzheimer. À partir de là, vous êtes très au courant maintenant, c'était une étude de phase 2, on lance les phases 3, les grandes phases qui doivent confirmer ce résultat spectaculaire. Très bien. Parce qu'il y avait en plus un effet non seulement sur les lésions, mais il y avait aussi un effet sur les symptômes. Et là, ce que j'appelle la saga de l'aducanumab, en mars 2019, les études de phase 3 sont arrêtées. Pourquoi ? Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Le laboratoire est un laboratoire qui s'appelle Biogène. C'est un laboratoire qui a des enjeux, il y a des enjeux financiers très lourds dans une étude de phase 3. Je vous ai expliqué, ce sont des études mondiales, ça coûte très très cher. Que fait le laboratoire ? C'est une étude d'un an et demi. Il se dit, après un an, je vais soulever le tapis pour voir si ça bouge. En d'autres termes, j'ai mes deux bras, un bras traité et un bras qui n'est pas traité, et je vais voir s'il y a une différence entre les deux bras. Donc il demande à une agence extérieure, c'est en aveugle, on ne sait pas qui est traité, qui ne l'est pas, on regarde, et s'il y a une différence, c'est que c'est forcément que le produit est actif. Donc on regarde, et l'information vient 4 mois après, après les analyses, hop, il n'y a pas de différence. Donc le laboratoire se dit, bon, à quoi ça sert de continuer une étude qui me coûte la peau des fesses, alors que je sais déjà qu'à un an, le médicament n'est pas efficace. Donc il décide d'arrêter. Sauf que l'information lui est revenue 4 mois après, 4 mois pendant lesquels les gens continuent à être traités. Ils refont les analyses, et là c'est positif. Vous voyez la situation stupide dans laquelle ce laboratoire s'est placé, à savoir de ne pas donner sa chance au produit en arrêtant un an, au bout d'un an, les études. Quand vous dessinez un programme, que vous dites, sur la base des données que vous avez, il faut 18 mois pour démontrer une efficacité, vous devez à ce moment-là vous fermer les yeux et attendre 18 mois. Mais si, à un an, vous arrêtez, vous ne donnez pas la chance au produit, dont vous avez pourtant établi vous-même qu'il fallait 18 mois pour démontrer son efficacité. Le laboratoire a fait une boulette énorme, puisque l'analyse, ça s'appelle une analyse de futilité, montré que ce n'était pas efficace. Des analyses de données élargies, ce que je viens de vous dire, ont ensuite montré une réduction du déclin cognitif chez certains patients. Donc le 7 novembre, sur la base de ces résultats, des experts internes de la FDA concluent que ce médicament a prouvé son efficacité. Deux jours après, le 9 novembre, des experts externes à la FDA, nommés par la FDA, évaluent les mêmes dossiers et concluent, eux, que le médicament n'a pas montré son efficacité. Donc la FDA était dans une situation très délicate. Eux-mêmes considèrent que c'est un médicament qui marche. Et les experts qu'ils nomment, les experts extérieurs, disent non, il n'a pas montré son efficacité. Donc ils sont dans l'impasse. On sent que la FDA a envie de l'approuver. Et la FDA nous dit, eh bien écoutez, voilà, on va réfléchir pendant 5 mois, et le 4 mars, on vous donnera la réponse. Le 4 mars arrive, et ils nous disent, non, on ne peut pas prendre, on vous donnera la décision le 7 juin. Donc la décision a été donnée il y a 5 jours, 6, 8 jours, le 7 juin fera date, peut-être, j'ai ce que je vous dis, peut-être. Donc ils ont approuvé le médicament, et je vous dis que c'est peut-être la deuxième date la plus importante depuis la description de la maladie par Alzheimer. Et cette dernière diapositive que je vais vous montrer, c'est une diapositive de débat, de discussion, si vous voulez, entre ce que j'appellerais les esprits chagrins qui, par rapport à ça, vont nous dire, et nous disent, parce que ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les journaux, vous avez peut-être vu cette querelle, qui nous disent, bon, il y a une faible amplitude de l'effet clinique, ça ne fait que 0,6 points au MMS sur 18 mois, c'est-à-dire vraiment très peu de choses.
MMS qui est le score...
Le score qui donne une idée, si vous voulez, sur le niveau d'atteinte. C'est un score entre 0
et
30.
C'est un test, en fait. Hein,
c'est un test entre 0 et 30. Les patients avaient en moyenne, si vous voulez, 22, à peu près en moyenne. Et donc, il y en a, après un an, ils passent un an et demi, ils sont à 22 pour ceux qui sont sous placebo et à 22,6 pour ceux qui sont traités. C'est une amplitude limitée, qui est d'ailleurs statistiquement limitée, la puissance statistique est limitée puisqu'il y a eu peu de patients finalement qui sont arrivés au bout. Sur les 3 essais, un essai de phase 2 et les 2 essais de phase 3, il y en a un qui est négatif, donc il y a un essai négatif, donc ils ont déposé à la FDA, alors qu'il faut avoir 2 essais positifs, ils n'ont qu'un essai positif et un essai de phase 2, et des effets secondaires non négligeables avec ce qu'on appelle des ARIA-E, c'est-à-dire des œdèmes cérébraux, lorsqu'on pousse les doses. À l'opposé, vous avez les optimistes, dont je fais un peu partie, je dirais, malgré tout, en disant enfin, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on n'a aucune information positive à donner à nos patients, qu'on voit des patients qui arrivent de partout et à qui on dit, vous avez la maladie d'Alzheimer, deuxième question. Alors, première question, qu'est-ce que j'ai? Vous avez la maladie d'Alzheimer. Deuxième question, est-ce qu'il y a un traitement? Non, il n'y a pas de traitement. C'est déprimant pour les malades et pour les médecins de n'avoir rien à proposer. Imaginez un cancer du pancréas, il n'y a rien à faire. Ben, c'est terrible, terrible, et vous l'avez peut-être vécu pour quelqu'un de votre famille. Là, on peut dire, il y a un espoir. Ce que je dis, on ouvre la porte, on a devant nous un escalier, c'est la première marche. On monte la première marche, elle n'est pas haute, elle ne change pas fondamentalement les choses, mais c'est le début de quelque chose. On est dans une démarche, on est dans une stratégie de recherche, là, dans une stratégie de progrès thérapeutique. Ça va démarrer comme il y a eu pour le cancer, comme il y a eu pour l'immunothérapie des mélanomes. Bon voilà, petit à petit, ou le cancer du poumon, eh bien, on progresse. Donc je pense que c'est une première marche, petite mais intéressante. Il y a quand même 2 études positives, l'étude PRIME, la phase 2, et une phase 3 qui s'appelle EMERGE. L'effet est très significatif sur la charge amyloïde, vous l'avez compris, l'effet est très significatif sur les lésions amyloïdes, ça nettoie les plaques amyloïdes, donc c'est quand même un argument fort aussi. Et puis surtout, d'autres arrivent qui sont beaucoup plus intéressants, me semble-t-il. Le BAN 2401 des AIE, je pense que vous travaillez dessus aussi, et le donanemab, qui est incroyablement efficace, qui nettoie totalement, à tel point, le donanemab, à tel point que des sujets en fin d'étude, alors qu'ils ont franchi au départ le seuil des lésions qui font qu'ils ont des lésions dans le cerveau, donc on dit qu'ils sont positifs. En fin d'étude, il y a une telle régression des lésions qu'ils sont considérés comme négatifs, on considère qu'ils n'ont plus de lésions cérébrales. C'est même un critère de sortie d'étude, c'est que les patients, finalement, on voit un nettoyage global des lésions. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'aurais jamais pu faire cette présentation il y a 6 mois, car on était encore totalement dans le flou. Maintenant, on a une petite lumière, et c'est le message que je voulais vous faire passer. Vous voyez, la recherche clinique avance. Grâce aux recherches qui sont faites sur les patients, on a identifié cette plaque amyloïde. À partir de là, on a monté d'un médicament qui sont des anticorps anti-amyloïdes, qui commencent à montrer un effet discret, mais c'est une première étape. Et donc, je pense que c'est un message d'espoir que je vous donne ce soir.
Merci beaucoup, professeur. Alors, bien sûr, des résultats qui devront être confirmés. Bien sûr, le traitement coûte cher, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Ces patients n'ont pas perdu. Au contraire, ils ont un peu récupéré. Voilà. Et les autres médicaments arrivent. Plus que jamais, il faut soutenir cette recherche médicale dans la maladie d'Alzheimer. Merci encore de votre venue, Michel Rubirola.
Je pars sur une note d'espoir. C'est formidable. J'ai été ravie d'être avec vous et je vous souhaite une bonne continuation.
Et nous aussi, bon rétablissement à vous.